Chapitre 67. Des canots déposèrent tous les détenteurs du don sur les quais. Les réfugiés, quant à eux, restèrent sur les navires dans l'attente d'un nouveau foyer. Otto leur fit envoyer des vivres, de l'eau et des équipements, mais Sérimundi ne pouvait plus accueillir personne. Alors que Nietzsche et Otto préparaient une réunion publique pour débattre des dernières et inquiétantes nouvelles, Bannon et Lila allèrent explorer le port et ses environs. Quittant les quais, ils s'engagèrent sur une piste qui conduisait au sommet de la falaise de Mer-la-Mer. Les yeux levés, le jeune escrimeur admira la formidable sculpture.
« Cette statue est célèbre jusque sur mon île, » dit-il. « Je n'aurais jamais cru voir un jour la mer de Sérimundi. »
Bannon se tourna vers Lila, espérant qu'elle partagerait son émerveillement. Ses ecchymoses guéries, la moracite était superbe, à la manière dont peut être belle une lame bien aiguisée. Depuis leur évasion du bastion, elle ne quittait plus son protégé d'un pouce. Même la nuit, quand il dormait dans une étroite cabine sur le navire de Mills, elle insistait pour materner le jeune homme. Cela dit, en matière de maternage, elle n'était guère douée. Pourtant, Bannon n'aurait pas voulu d'une autre compagne.
« Tu parles souvent de mer-la-mer, » dit la moracite. « En général, c'est pour jurer, après. »
Bannon leva de nouveau la tête vers la sculpture.
« Avant tout ça, je n'avais jamais vu la déesse de mes yeux, » reconnut-il. « Mais dans un lointain passé, à ce qu'on raconte, elle apparaissait assez fidèle sous la forme d'une créature de vif argent.
« Mais elle est très belle, »
admit Lila d'un ton grognon. Les yeux de Mer-la-Mer fixaient éternellement le port, afin de le protéger. Défendre Sérimundi était la mission de cette déesse, affirmait-on. Cela dit, lors de la dernière bataille, elle n'avait pas bougé un cil. Si la ville existait toujours, c'était grâce à Nietzsche. En marchant, Bannon s'autorisa à laisser courir ses doigts sur le fourreau et la poignée de la magnifique épée offerte par Nathan. De sa vie, il n'avait jamais rêvé de posséder une telle arme. Solide, c'était différent. Fier de l'avoir payée de ses deniers, il s'était entraîné jusqu'à ce qu'elle devienne le prolongement de son bras. Aucune arme ne lui inspirerait plus ce sentiment. Cela dit, la lame de Nathan était une véritable merveille. Profitant d'un court répit avant la prochaine bataille, Bannon s'enivrait de ces quelques moments passés avec Lila, une femme adorable quand on la connaissait. Ces temps derniers, il se sentait différent. Comme s'il n'était plus un cultivateur de choux qui avait fui une île isolée pour échapper à son destin. Un jeune homme que son père tabassait avant de finir par tuer sa mère. Un type dont le meilleur ami avait été enlevé par des esclavagistes. Ce Bannon-là n'existait plus. Après avoir sillonné le monde et survécu à de grandes batailles, le nouveau s'était endurci tout en gardant la capacité de s'émerveiller. Aujourd'hui, il portait de beaux vêtements, une arme d'exception et il mangeait presque toujours à sa faim. À ses côtés, une superbe femme lui tenait lieu de formatrice et d'amoureuse, refusant de le quitter une seconde. De quoi avoir du mal à y croire.
« Douce mer-la-mer, »
murmura-t-il en levant de nouveau les yeux vers la déesse.
« Tu en fais trop avec elle !» siffla Lila.
« Comme devant cette fichue Nietzsche. »«
Pardon ?»«
Tu te pâmes en présence de cette magicienne. »«
Moi ? Je t'ai vu faire. »« Quand tes yeux se posent sur elle, ton cœur bat la chamade. »« Elle est désirable, je l'avoue, mais moi aussi. »« Je ne suis pas assez blonde à ton goût ?»« Ou alors ce sont ses seins et ils t'excitent, c'est ça ?»
La moracite se tendit comme si elle était prête à attaquer.
Bannon ne sut que répondre.
Tout au début, il s'était effectivement entiché de Nietzsche. Pour la séduire, il lui avait même offert des fleurs, empoisonnées, comme elle le lui avait fait découvrir. Se contentant d'abord de le repousser, la magicienne avait menacé de le tuer s'il insistait. Un souvenir qu'il trouvait drôle, avec du recul.
« Nietzsche ? Elle me terrifie !»
Lila dégaina son épée d'une main et saisit sa pointe douleur de l'autre. Une arme redoutable, Bannon avait payé pour le savoir.
« Et moi, mon gars, je ne te terrifie pas. Défends-toi et tu apprendras peut-être ta leçon. »
Avant la première attaque, Bannon eut tout juste le temps de dégainer sa superbe épée. Jusque-là, il s'était entraîné à blanc, combattant des ennemis imaginaires, mais là, Lila ne plaisantait pas. Elle frappa, recula, visa le ventre. Si Bannon n'avait pas reculé, ses boyaux se seraient retrouvés à l'air libre. D'ailleurs, un nouveau coup fendit le tissu de sa chemise.
Lila, qu'est-ce qui te prend ?
Pour se défendre, Bannon mobilisa tout son talent. Mais dans sa main, l'épée d'apparat semblait étrangère, son équilibre très différent de celui de Solide. Serrant plus fort la poignée ouvragée, il para néanmoins un coup et sentit l'onde de choc remonter jusqu'à son épaule. Sous les auspices de Mer-la-Mer, le duel continua de plus en plus sauvage.
« Tu sais, ça m'a mis hors de moi quand je t'ai vu reluquer une autre femme. »«
Reluquer ? Jamais !»
Enragé, Lila décocha deux nouveaux coups que Bannon esquiva de justesse. Quand il empara un troisième, il constata que l'épée lui paraissait beaucoup plus familière.
« Je ne pense qu'à toi, c'est juré.
Prouve-le !»
rugit Lila. Plusieurs fois, Bannon échappa d'un souffle à la mort. Et la Moracite ne se calmait toujours pas. Mais que cherchait-elle au juste ? Au fil du duel, le jeune escrimeur oublia qu'il ne maniait pas Solide. Plus serein, il étudia la technique de son adversaire. Comme il la connaissait déjà très bien, il devint presque facile d'esquiver ou de parer les attaques. Cela dit, elle ne transpirait pas alors qu'il n'avait plus un poil de sec. Le souffle court, il se força à résister tout en guettant une ouverture. Quand elle se présenta, il la saisit mais frappa du plat de la lame et toucha sa cible à la tempe. Lila tituba, recula et plaqua une main sur son oreille. Respectant une distance de sécurité, elle baissa sa lame et chercha le regard de Bannon. Alors qu'il s'attendait à y voir des éclairs, le jeune homme y lut de l'admiration.
« Tu t'es bien battu, mon gars, parce que je t'ai bien formé. Je voulais que tu prennes confiance avec ta nouvelle épée. Une arme, ce n'est qu'un outil, tu dois te graver ça dans la caboche. Tu te lamentes d'avoir perdu Solide, mais avec cette lame, tu feras autant de dégâts. « Maintenant, tu le sais. »
Bannon baissa les yeux sur son épée.
« Tu as fait ça pour m'entraîner ? En feignant d'être jalouse ? Je n'ai rien faim du tout.
Quand on s'entraîne, nos corps bougent parfaitement ensemble. Mais je préfère qu'on fasse ça au lit. Aujourd'hui, tu m'as convaincu que je suis au centre de tes pensées. Nous ne nous battrons plus ainsi.
Maintenant, filons d'ici. » « Je ne veux plus être dominé par cette déesse. Toi et moi, on ne se battra plus jamais à mort. »
La réunion eut lieu l'après-midi même, dans un entrepôt vide qui portait encore les stigmates du raid de Kor. Rassemblant les capitaines de navires, les officiers supérieurs et les notables de la ville, les débats eurent lieu autour d'une pile de caisses, la tribune, entourée de bancs en guise de gradins. Alors que l'assemblée se constituait, Nathan recensa les heureux élus. Zimmer et Norcross représentaient le corps expéditionnaire d'Aran venu de Tanimura. Faute d'avoir choisi une nouvelle dame abbesse, Eldin, Rhoda et Mab parleraient au nom des Sœurs de la Lumière. In petto, Nathan doutait qu'on puisse trouver une remplaçante qui arriva à la cheville de Verna. Alors qu'elle prenait place à la tribune, Nietzsche rayonnait de pouvoir et de confiance. Perry, Olga et Oron, les défenseurs d'Ildakar, seraient aussi une force à prendre en compte. Dans l'entrée et le long des murs, des citadins se préparaient à suivre les débats les plus importants auxquels ils aient assisté. Dès qu'Otto eut tapé sur une cloison avec son maillet, le silence se fit. Pour commencer, Nathan, Nietzsche et Zimmer décrivirent la situation. Oron et Olga ajoutèrent leur témoignage et Bannon fit un long exposé sur les abominations des Norukai. Thaddeus évoqua la destruction de Renda sur Bay, sacrifiée pour affaiblir les hordes d'Outros. Jared, le pêcheur de Kraken, posa la première question.
C'est nos Norukai, quand devons-nous les attendre? S'ils vous ont suivi depuis Renda sur Bay, ils ne devraient plus tarder.
La poursuite a été interrompue, répondit Mills. Les sorciers ont démoli une galère, et Olga nous a dissimulés derrière une nappe de brouillard. Les Norukai ont rebroussé chemin, je suppose. Nos bateaux de pêche ont trouvé refuge dans des criques ou des villages. Nous, nous avons filé afin de vous prévenir.
Les Norukai ne sont pas pressés, intervint Zimmer très calme. En chemin, ils raseront tous les villages de la côte juste pour le plaisir, et l'armée d'Outros aura besoin de temps pour traverser les terres.
S'ils suivent la vieille route impériale, dit Otto, ils peuvent même contourner Serimundi parce que la voie fait un détour. C'est en partie pour ça que l'ordre impérial nous a laissés en paix. Il est possible que nous n'ayons pas à nous inquiéter d'Outros.
Bonne nouvelle!
Railla Jared.
« 140 galères, ce ne sera pas la mer à boire !»«
Même si Outros fait un détour, » dit Nietzsche, « la situation reste inquiétante. Selon moi, Tanimura est l'objectif prioritaire de l'ennemi.
Là-bas, le général Linden peaufine les défenses avec ses soldats, la milice locale et une foule de réfugiés avides de vengeance. Devant le port, une petite flotte monte la garde. En d'autres termes, Tanimura ne tombera pas sans résistance.
« Linden est un excellent officier, » intervint Zimmer. « Cela dit, j'ai hâte d'être de retour dans ma garnison pour prendre les choses en main. »
« Mon navire est plein de réfugiés et de soldats, » dit le capitaine Donnell. « Et les réserves fondent vite. Si Serimundi ne peut pas accueillir les réfugiés, il faut que je rallie Tanimura le plus vite possible. »«
Même chose pour moi, » fit le capitaine Mills.
Maintenant que la Vierge des Brumes est cuirassée, » rappela Ganni, « elle pourra veiller sur le port. Nous avons d'autres navires pour cette mission, mais un gros transporteur nous aiderait à barrer le chemin des galères. »«
Je resterai. »
annonça le capitaine Stracker.
« Ma sœur habite à Serimundi. »
Auron et Perry se consultèrent du regard.
« Nous deux, » annonça Auron, « nous accompagnerons le capitaine Mills pour aider à défendre Tanimura. »
« Dans ce cas, » proposa Olga, « je resterai ici pour protéger Serimundi. Ce n'est pas Ildakar, mais ça reste une belle ville quand même. »
Très anxieux, Otto se tourna vers Nietzsche.
« Magicienne, » « vous êtes une alliée précieuse. Je vous demande de rester. Serimundi a besoin de vous. »«
Je resterai, mais pour une autre raison. Je veux en découdre avec Calvert le plus tôt possible, parce que je suis prête à l'affronter. »«
Je combattrai avec Nietzsche !»
s'écria Bannon. Soudain tout rouge, il jeta un coup d'œil à Lila.
« Je veux dire, nous combattrons avec Nietzsche. »«
Oui, je ne quitterai pas Bannon Farmer. »
déclara Lila.
Je m'en voudrais de faire éclater de nouveau le groupe, dit Nathan. Mais avant de prendre des dispositions, nous devons savoir où sont les Norukai et à quelle vitesse ils avancent.
Nietzsche s'adressa au capitaine.
Je désire cingler vers le sud avec le bateau le plus rapide dont nous disposons. Qui veut bien me conduire jusqu'aux galères? Pour connaître leur position, c'est la seule solution. Nous les provoquerons. Et avec un peu de chance, elles en oublieront Serimundi et nous suivrons jusqu'à Tanimura où les attendent nos véritables défenses. Là, nous aurons l'occasion de les écrabouiller.
Les citadins soupirèrent de soulagement. Un très bon plan, ça.
Le chasseur est à votre disposition, magicienne,
dit Jared. C'est un destrier des mers et mon équipage connaît parfaitement ses eaux. Plus d'une fois, nous y avons pêché des kraken. Nous lèverons l'ancre sur votre ordre. Après un petit nettoyage des cabines, cela dit.
Ce serait préférable,
marmonna Otto.